surtout le secteur énergie. Quand on parle de pénurie, c'est surtout l'électricité. Voilà, voilà, la bande de Gaza est, dépasse les 2 100 000 habitants, estimés arriver en 2035 à 3 700 000 habitants. À peu près, c'est à 5772 personnes par kilomètre, donc c'est considéré comme un territoire le plus densément peuplé au monde. La quantité totale, quand on parle d'une croissance de population, on parle de croissance d'approvisionnement en eau qui augmente au fur et à mesure que la population augmente. La quantité totale d'eau fournie est presque de 118 000 mètres cubes qui provient de différentes ressources. C'est très important que vous connaissiez les ressources d'où vient l'eau à Gaza. La source la plus importante, c'est l'aquifère qui s'approvisionne. C'est juste la seule source, c'est la pluie, la précipitation. On achète l'eau d'une compagnie israélienne, Mekerot, et l'achat de l'eau est estimé à 14% de l'eau qui provient du côté d'une compagnie israélienne. Des stations de désalinisation qui ont été aussi mises en place, on va parler précisément de ces stations, sur la bande de Gaza, c'est pas ancien, c'est récent, et qui font que désaliner l'eau de mer. Voilà, de ce système-là, il provient 6,4% de l'eau. Mais comme vous voyez, la grande quantité vient de l'aquifère. Voilà, c'est très important d'exposer la situation de l'aquifère dans les années qui viennent, avant comment ça a été et qui viennent. Et là, quand vous remarquez dans cette figure, on montre qu'il y a un déclin très clair de... Voilà un déclin continu qui entraîne une dégradation et un épuisement important des ressources en eau. Ça est dû à la surexploitation et le surpompage de l'eau de l'aquifère. Des fois, on arrive à 3 fois plus à le pompage de l'eau, 3 fois plus que le rendement de l'aquifère, que la recharge de l'aquifère. Donc c'est bien clair qu'il y a un épuisement très important des ressources en eau. Voilà, le comportement de la baisse de niveau varie d'un puits, bien sûr, ça c'était, on avait eu des modèles, des puits, et dans des régions différentes dans la bande de Gaza, du nord jusqu'au sud. Eh bien, la baisse du niveau, bien sûr, varie en fonction de puits, des conditions, où se situe ce puits-là. Bien sûr, dépend de l'état hydrogéologique et de la recharge par les précipitations. Alors, je précise que la précipitation est la seule source qui nourrit l'aquifère à Gaza. Voilà, quand on parle de l'eau à Gaza, voilà, c'est très important de parler de la quantité et de la qualité de l'eau. La quantité de l'eau n'est pas suffisante, bien sûr, avec la croissance de la population. Et d'estimer qu'il y a un manque cruel dans les foyers. Là, je parle de l'eau pas potable. Juste l'eau qui s'utilisait dans le ménager et l'hygiène. Voilà, notez également que l'ampleur de l'attitus, voilà, on parle de la qualité de l'eau. Quand on parle de la qualité de l'eau, c'est très important de parler des polluants ou des contaminants, les chlorures et les nitrates. Là, il y a une augmentation, il y a tendance, voilà, on est là, notre schéma, c'est jusqu'à avril 2025, il y a une tendance d'augmentation de la, par la contamination du chlorure. On a dépassé en 2021 les 2500 mg par litre de contamination par le chlorure. Et après, on va voir qu'il va y avoir d'autres risques qui peuvent détériorer la situation. Ça veut dire qu'il y aurait la contamination pourra augmenter. Alors, là, on était à un R+ de 2500 mg par litre en contamination par les chlorures. Et bien sûr, ça dépend d'un puits, ça varie d'un puits à un autre. Et là aussi, c'est très important, le deuxième polluant qui est très important, c'est le nitrate. Dans l'aquifère de gaz à décompressement, de nombreux facteurs tels... Alors là aussi, on a des chiffres variés de la contamination par les nitrates, mais dans tous les cas, elle dépasse les 250 mg par litre. Et bien sûr, c'est dû aux activités anthropiques de l'humain, et en plus de... c'est surtout la maltraitance des eaux usées qui vient des stations de traitement des eaux usées qui sont sur des arbres. Et en plus de la contamination, de l'utilisation excessive des pesticides et des produits chimiques qui utilisent les agriculteurs dans la bande de Gaza. Voilà. Donc, les pourcentages là, il y a des... voilà, figures qui en calembert là, c'est il voilà, par exemple à Gaza, le taux de chlorure est à 78. Ça, d'après l'autorité de l'eau palestinienne. Chaque année, elle a un rapport à faire, donc ces chiffres sont récents. Donc, on a 78% de l'eau à Gaza est contaminée par le chlorure. Alors que les limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé ne doivent pas dépasser les 250 mg par litre. Nous, on est à 2500 mg, et on arrive à 3000 dans certains et plus dans quelques puits, dans différentes zones de la bande de Gaza. La contamination par les nitrates, on est à 85%, ou soi-disant 86% de contamination par les nitrates. Alors, les limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, le taux nitrate ne doit pas dépasser les 50 mg par litre. Voilà, là, il y a une combinaison des... du chlorure et des nitrates, voilà, on les voit, donc c'est juste, on arrive à presque 97%. Ça, ce schéma veut dire que 97% des eaux à Gaza sont contaminées en nitrate et en chlorure. Voilà, il est clair que seulement 11 puits, il y a des puits qui sont là, 3,8 points, on peut considérer 4% des puits juste qui respectent, ça veut dire qu'ils sont dans les limites recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, alors que 97% des puits sont contaminés. Là, c'est très important de parler d'un autre facteur qui vient affliger la situation de l'eau et de l'environnement à Gaza, c'est le changement climatique que à Gaza, surtout vraiment, la population ne se rend pas compte parce qu'il y a plusieurs soucis dont les Gazaouis se rendent compte. Voilà, mais c'est surtout les agriculteurs qui ont touché ça. Alors, le changement climatique qui exacerbe la crise à laquelle sont confrontés les Palestiniens, en particulier à Gaza. Alors, les projections du changement climatique, c'est sur la température. Il y a des changements de température, élévation de la température, des événements météorologiques extrêmes. Et on a reconnu ça depuis l'année passée. Il y a eu des inondations dans les zones sud et dans les zones nord qui exacerbe le côté aussi assainissement quand il y a des inondations à Gaza. Alors, avec les moindres moyens, c'est les municipalités ou les mairies qui interviennent avec leurs moyens limités pour résoudre les problèmes, mais c'est dû aussi parce que l'infrastructure, elle est détériorée. Déjà, parce qu'il y a un blocus qui exerce sur Gaza. Quand je parle d'un blocus, ça veut dire qu'il y a des restrictions sur les matériaux qui passent à Gaza. Je parle aussi des bombardements et du conflit et des agressions qui ont lieu de temps en temps sur la bande de Gaza et qui touchent directement l'infrastructure. Donc quand il y a des événements météorologiques, ça on le voit clair, les gens ils sont inondés, les maisons inondées. Et c'était bien clair, on a vu ça l'année passée dans la zone du nord de la bande de Gaza à Jabalia et à Khan Younes. Alors, il y aura des changements qui toucheront aussi un impact sur l'eau de mer. L'augmentation de l'eau de mer, ça va augmenter l'acidification, ça va traîner une acidification et plus d'intrusion de l'eau de mer. On va montrer ça dans les cartes. Et le taux de précipitation qui va diminuer et qui va, même s'il y aura des précipitations, ça sera une façon irrégulière. Voilà, là on parle des changements climatiques. Voilà, selon une étude qui a été récemment faite sur l'impact du changement climatique, on va exposer selon les températures, les recharges de l'aquifère et les concentrations des contaminants, et aussi sur les précipitations, le taux des précipitations. Alors, le changement annuel moyen des températures va augmenter. Là, on a pris des années 2020, 2050 et 2080. C'est des prévisions. Alors, en 2020, il y a eu une augmentation de 0,85 degrés Celsius. C'est prévu qu'elle augmente à 2,6 degrés Celsius en 2050 et à 5 en 2080. Les prévisions de changement moyen des précipitations annuelles, ça va dégrader, réduire, ça va être réduite. Alors de moins 7,48 en 2020 jusqu'à moins 46 mm en 2080. Le volume total de recharge, c'est lié bien sûr au taux de précipitation, la quantité de pluie qui va nourrir l'aquifère. Alors ça va dégrader aussi, il y a une réduction très claire. En 2020, la réduction a été de 38 mètres cubes, millions de mètres cubes. Et ça va être réduit en 2050 à 23 millions de mètres cubes et à 8,700 en 2080. Voilà les impacts du changement sur les eaux souterraines de l'aquifère côtier de Gaza principalement, parce que c'est le côtier de l'aquifère, c'est ça qui c'est nourri l'aquifère en général à Gaza, c'est le plus riche, mais le problématique c'est le phénomène d'intrusion d'eau de mer qui met l'aquifère en contamination avec le chlorure. Les moyennes de chaque concentration de chlorure, voilà, quand on parle de l'intrusion d'eau de mer, on parle de concentration de chlorure qui varie. On était à 1445 en 2020 mg par litre. 2030, on est arrivé à 2000. C'est prévu qu'elle soit à 2734 en 2030. Et on peut arriver à une contamination en chlorure à 7700 mg par litre. Et c'est un chiffre vraiment très important. Là, c'est la carte de la bande de Gaza. Et on peut, ça résume un petit peu l'impact du changement climatique sur les eaux souterraines de l'aquifère côtier de Gaza. Là, c'est surtout le phénomène d'intrusion d'eau de mer, comme on a dit, intrusion d'eau de mer, c'est-à-dire contamination par le chlorure. Alors, vous voyez clairement, On a pris les années de 2020 jusqu'à 2080 et la contamination ou l'intrusion d'eau de mer s'étend clairement et on arrive jusqu'à la moitié de la bande de Gaza. Et la contamination va arriver à plus de 7000 mg par litre. Là, quand on parle de changement climatique, c'est très important de parler des risques qui vont toucher directement la population, soit sur l'insécurité de l'eau. L'insécurité de l'eau, c'est avoir des problèmes à l'hygiène et le problème d'approvisionnement aussi en eau. Donc, ça va toucher directement la santé humaine. Et ça va toucher aussi le secteur économique et donc les moyens de subsistance. Le secteur agricole est aussi très important parce que le secteur agricole, c'est le deuxième secteur qui consomme plus d'eau dans la bande de Gaza suite à des activités agricoles. Voilà les risques, on parle des risques, voilà diminution d'eau, culture et changement climatique entraîne une utilisation accrue de l'énergie pour le dessalement et le traitement de l'eau. Voilà, mais quand on parle, voilà, je voulais bien parler des stations de désalinisation qui existent. Et il y en a eu seule une grande station qui a été mise en place et suite et a été financée par l'Union européenne, mais franchement, pour moi, je ne trouve pas que c'est une solution. C'est vrai, elle approvisionne, elle fournit de l'eau à Gaza, mais ce n'est pas une solution parce que ça dépend de l'énergie. Alors que Gaza est déjà un problème et confronté à une pénurie d'énergie. Les Gazaouis n'ont de l'électricité que 4 à 8 heures par jour. Et durant les guerres, au moment de stress, voilà, on peut avoir juste 2 heures, on est arrivé à 2 heures d'électricité par jour. Une telle station, une fois, ça lui faut de l'énergie, et d'un autre côté, ça représente aussi, au moment où, quand on parle d'un tel projet, normalement, on doit prendre en considération la maintenance. La maintenance, donc quand on parle de maintenance, c'est qu'il y ait des matériels qui normalement doivent être là, mais au fait, les matériaux, c'est un autre problème à Gaza qui n'arrive pas à passer. C'est pas tous les matériels qui n'arrivent pas, qui arrivent à passer par le seul point de passage qui est Karm Abou Salem, c'est avec les frontières israéliennes. Donc, c'est pas tous les matières, bien sûr, en raison de double usage. Je parlerai là pas seulement de la station de désalinisation, mais d'autres projets qui sont bloqués parce que le matériel ne passe pas. Même le ciment, on n'arrive pas à passer des fois. Les pompes à eau, on n'arrive pas à passer. J'aimerais bien parler de la dernière mini-station qu'on a installée avec plusieurs en Palestine. C'était dans le sud-est de la bande de Gaza. On a eu du mal à trouver des pompes comme décrites dans la description on voulait une certaine qualité, mais on a attendu franchement que ça passe, mais en fait quand ça n'a pas passé, on était obligé de changer le descriptif de la mini station. La même chose pour les autres projets, la station de désalinisation qui existe. Elle peut être confrontée à manque de matériel pour la maintenance ou la réhabilitation. Aussi, ça cause parce que quand on traite, on génère aussi l'eau saumâtre dans l'eau de mer et ça construit aussi un problème ou un danger pour la faune et flore. Donc, moi perso, je trouve dans une voilà territoire bloqué et qui c'est parler d'un tel projet, c'est un peu compliqué, il faut vraiment y penser. Voilà. On parle aussi d'augmentation projetée du taux des maladies menacent la santé publique globale. Ça, c'est lié aussi au changement climatique, voilà, le moins d'eau. Donc, voilà, sa touche aussi l'hygiène. Et c'était clair aussi au moment où on avait la pandémie du Covid, il y a eu plusieurs, le taux était des fois s'élevait à cruellement, voilà, parce que les gens ne trouvaient même pas de l'eau pour leur hygiène. Voilà, la pénurie alimentaire causée par les changements climatiques peuvent conduire à la malnutrition. Déjà, avant de parler de la malnutrition, surtout qui touche les enfants, j'aimerais bien parler déjà l'eau qu'on utilise. Alors, à savoir que à Gaza, les gens achètent l'eau. Donc, mais ce n'est pas tous les habitants de Gaza qui peuvent acheter l'eau. Donc, ils sont obligés d'utiliser l'eau de robinet. Voilà. Sinon, s'ils achètent l'eau, ils ne savent pas la source de cette eau. À savoir que dans la bande de Gaza, il y a des... Je vais expliquer des conséquences maintenant. Je vais vous dire les conséquences, puis je reviens vers comment voilà, on s'approvisionne en eau bonne à boire. Les conséquences, déjà, il y a des maladies qui touchent les bébés, les Blue Baby Syndrome, qui touchent les enfants à Gaza dû à la concentration des nitrates. Voilà. Là aussi, le changement climatique peut conduire à la malnutrition, augmentant l'exposition aux maladies, et qui représente 26% de toutes les maladies signalées, donc 26% des maladies d'origine hydrique. Alors, j'aimerais bien là parler, voilà comment les Gazaouis s'approvisionnent en eau, et après, c'est lié aux maladies. Donc, les Gazaouis, l'eau qui vient à l'eau robinet, c'est pas une eau bonne à boire, c'est juste à utiliser pour les ménagers, l'hygiène. Voilà, la plupart des Gazaouis achètent l'eau. Soit ils font appel à des camions qui ont des citernes, des grandes citernes, voilà, qui viennent remplir le réservoir qui sont voilà, sur les toits. Soit il ça c'est les camions, soit il y a des mini-stations, des petites mini-stations qui sont installées par des organisations, et comme on a fait avec l'association Fougère en Palestine, on a réussi à installer 3 mini-stations. Et là, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à acheter de l'eau, ils s'approvisionnent en cette eau via des distributeurs robinets extérieurs, donc c'est gratuitement. J'ai trouvé que c'était très bonne idée pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer l'eau bonne à boire. Alors, l'eau qui vient des camions, la plupart des Gazaouis ne savent pas d'où ça vient. Et ça peut être, au moment de l'approvisionnement, de la livraison, ça peut être contaminé. Parce qu'il y a, c'est un commerce, pour certains, c'est un commerce réussi. Donc, ils installent des mini-stations un peu partout. Et c'est non réglementé. Ça veut dire qu'ils ne passent pas par l'autorité de l'eau palestinienne. Donc, ils ne passent pas par le contrôle, ils ne passent pas par les analyses. Ce n'est pas toutes les mini-stations, mais c'est certaines mini-stations. Donc, au moment des livraisons, ça peut être contaminé. Donc, la plupart des Gazaouis ne cherchent pas d'où vient cette eau. Mais l'essentiel, qu'il ait de l'eau bonne à boire. Et d'où ça, les maladies hydriques. Voilà qui représente près de 26% de toutes les maladies signalées. Voilà, c'est surtout ça. La plus sécurisée, c'est les mini-stations qu'on a installées avec Couser en Palestine, par exemple. Il en existe un peu partout, dans quelques quartiers, pour faciliter l'accès à l'eau aux habitants. Voilà, le secteur agricole, là on va parler un petit peu d'impact du changement climatique sur le secteur agricole, car c'est considéré comme un très important pilier de résilience palestinienne face à l'occupation israélienne comme une source principale de sécurité alimentaire. Alors, l'agriculture à Gaza, 15%, je parle de l'agriculture en général dans la bande de Gaza, mais il y a une partie qui représente 15% des terrains qui sont frontaliers sur les territoires avec sur une zone tampon, alors que les agriculteurs ne peuvent pas accéder à leur terrain. C'est à 700 km et à 700 mètres, pardon, à 700 mètres qui est à jusqu'au 1,5 km, les paysans ne peuvent pas arriver à leur terrain. Et les Israéliens, parce que c'est il y a sur les territoires, il y a les Israéliens qui leur tirent dessus. Ils sont aussi confrontés à des problématiques. Ils n'arrivent pas à conduire l'eau jusqu'à leur plantation. Dans ce cas, et aussi, ils sont interdits à planter les arbres pour des raisons de sécurité pour le côté israélien. Et pour les problématiques de l'eau qui confrontent les agriculteurs, alors que les Israéliens, surtout le long de la bande de Gaza, c'est surtout le côté nord et est, c'est où il y a les terrains agricoles, ils creusent des puits plus profondes, un peu pour chasser l'eau, pour qu'elle ne vienne pas au terrain des agriculteurs. Voilà donc, avant c'était ça pour les agriculteurs. Mais il y a des agriculteurs maintenant qui un autre souci qui vient s'ajouter, mais ils ne sont pas tous conscients, ou ceux qui sont conscients, ils n'ont pas l'expérience pour confronter ces problématiques de changement climatique. Pourtant, l'impact du changement climatique a vraiment ça a nui beaucoup à la récolte et à l'agriculture des Gazaouis. Les différences par rapport, par exemple, cette année était remarquable, ça veut dire était très importante par rapport à l'année précédente. Il y a eu une réduction sur leur production. Voilà, le secteur agricole fait face à des risques liés au changement climatique, en particulier l'augmentation des niveaux de température. Des fois, c'est l'augmentation de la température qui mène la sécheresse des semis. Voilà, la sécheresse des semis. Et des fois, il y a la réduction sur la floraison. La floraison, on dit, c'est ça? La floraison. Et il y a des baisses aussi. Avec le vent fort qui vient, il y a aussi la baisse des feuilles aussi, des feuilles des arbres. Donc, le niveau de précipitation aussi des saisons qui est irrégulier. Aussi a impacté aussi la production des agriculteurs. Il y a eu des fortes pluies et inondations. Il y a eu aussi des vents forts qui ont affecté aussi les arbres. Les vagues de chaleur et les vagues de froid sont des risques qui affectent déjà négativement la production agricole dans la bande de Gaza. Certains des impacts les plus importants exacerbent par le changement climatique, dont on a parlé, la diminution de disponibilité de la qualité de l'eau. Voilà. Alors, déjà, les agriculteurs étaient confrontés à un manque d'eau. Si ce n'est pas un manque d'eau, c'est que l'eau qu'ils sont obligés d'utiliser, elle est trop salée. Ça a poussé plusieurs agricultes. Je connais des agriculteurs qui. Leur terrain était pas loin de la mer, c'est El Mawassi à Khan Younes, c'est une zone qui s'appelle El Mawassi. Alors ils étaient obligés de vendre leur terrain parce qu'en fin de compte, ça leur revient avec une perte. Et surtout que les agriculteurs à Gaza, c'est des petits exploitants familiales. C'est pas des grands, ça veut dire des grands agriculteurs, mais c'est des familles qui mènent des activités agricoles. S'ils ont un terrain, voilà, avec leur production, ils peuvent survivre. C'est leur seul moyen de subsistance pour eux. Donc, je connais quelques-uns, ils ont été obligés à vendre leur terrain, voilà, parce que en fin de compte, ils perdent. Voilà, les producteurs directs, voilà, culture, température, c'est ça, les stress hydriques, ces événements, tout ça, ça impacte l'agriculteur, le secteur agricole à Gaza, l'incidence accrue des ravageurs aussi, des maladies et la dégradation des terres. Voilà, quand on parle de dégradation des terres, c'est aussi qui vient s'ajouter, c'est très important de mentionner ça, les années précédentes et même... Au moment de la où les plantes sont des semis, on dit les petites les plantes, surtout sur les bords, sur le côté des frontières israéliennes, Alors, il y a l'aviation israélienne qui vient pour pulvériser ou pour épandre voilà, des produits chimiques qui restent dans la terre de 60 à 80 jours. Ça tue la qualité, ça réduit la qualité de la terre, de leur terrain, des agriculteurs, et ça tue aussi leur semis. Et même des analyses qui ont été faites, ils ont montré que ces produits, je crois que les analyses ont été faites par l'Organisation mondiale de santé, ont montré que ces produits aussi sont cancérogènes, c'est ça? On dit cancérogènes, voilà. Cancérogènes, et ça n'affecte non seulement un impact sur les terrains agricoles, mais aussi sur les personnages, sur la santé humaine. Voilà, donc j'aimerais aussi parler. Il y a presque plus de 70% des agriculteurs qui sont des petits exploitants familiaux. Là, les coupures aussi, les pénuries d'électricité aussi limitent la capacité des agriculteurs à pomper aussi l'eau pour l'irrigation. Donc, dans ce cas, ils sont obligés, il y a des agriculteurs qui sont obligés d'acheter l'eau pour irriguer leur culture. Et d'autres qui n'ont pas les moyens, donc, à savoir que les agriculteurs, quand ils achètent les semences, et ça veut dire qu'ils n'ont pas leurs propres moyens pour acheter, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter. Donc, ils achètent des commerçants. Et ils n'ont pas suffisamment d'expérience pour savoir si ces semences-là, ils sont bien ou pas. Donc, mais ils plantent, mais ils découvrent que la qualité de leurs semences, c'est après un bon moment. Donc, ils se trouvent en fin de compte endettés à des commerçants. Et c'est pour ça d'autres personnes, comme je vous l'ai dit, ils se trouvent en fin de compte endettés, ils perdent leur récolte, donc ce qui fait. Ils vendent leur terre. Voilà, là, par exemple, je vais exposer avec vous des témoignages de quelques agriculteurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'agriculture la plus importante à Gaza, c'est les olives, les raisins, et c'est surtout aussi les fraises dans le nord, côté nord de la bande de Gaza, qu'on appelle la zone de Betlaya. Donc, mais les fermiers, ils ont eu un témoignage, par exemple, de Mohamed Abou Taïma. Ça, c'est une famille qui existe dans le côté sud-est de la bande de Gaza. Là, c'est pour la récolte des melons, un type de melon, une espèce de melon. Voilà, déjà, ces agriculteurs, c'est pas les propriétaires, pour celui-là, ce n'est pas un prioritaire, un propriétaire de terrain, mais il loue les terrains. Il loue les terrains. Et en fin de compte, au moment qu'ils vendent leur récolte, ils doivent donner l'argent pour la location du terrain et une partie pour survivre. Alors, il avait alloué un terrain de 7 dunums. Un dunum, ça veut dire 1000 mètres carrés. Voilà, 1000 mètres carrés. Pour la plantation du melon, l'agriculteur dit que la production a été faible cette saison à cause du froid. Habituellement, la vague de froid se termine avec l'arrivée du printemps. Oui, c'est vrai, c'est à Gaza, juste quand on a eu du froid, et c'était un terrible froid, jusqu'au mois de mai. Même avant que j'arrive, il y avait des vagues de froid, surtout dans l'après-midi. Tout le monde trouvait ça anormal. Voilà, ce genre de fruits de melon préfère la chaleur. On voit qu'ils ont une faible croissance. À cette époque de l'année, les fruits sont prêts à être récoltés et la raison en est le changement climatique. Là, il y a un autre agriculteur, s'appelle Suleiman Assalaima. C'est un locataire aussi d'une parcelle de 2 dunums et il plante des oliviers. Il a été démontré que le changement climatique a eu un impact significatif sur la production agricole car la chaleur a fortement affecté la récolte d'olives en 2021. C'est vrai, en 2021, Alors les olives, nous, c'est, on ne consomme pas comme ça, mais c'est, on transforme en huile d'olive. Et c'est trop répandu à Gaza. La température a augmenté à des degrés considérables et s'est poursuivie jusqu'en novembre, ce qui est une chose anormale. Et là, il y a eu une réduction au niveau de la récolte des olives. En 2020, la production était abondante, ça c'est vrai, et la quantité de la récolte était estimée à 2,5 tonnes. Mais en 2021, la récolte a été estimée à 295. Voilà, ça montre une différence voilà, très importante. Voilà la chaleur excessive. Là, on parle des fraises dans la bande, le nord de la bande de Gaza, c'est Betlaria, c'est très connu, c'est une région très connue par la plantation des fraises. Et ce monsieur Rachad, il a loué une parcelle de 2 dounours pour la plantation des fraises. Il dit que la poursuite de la vague de froid du fond mai a entraîné la rougeur des feuilles. Et donc, les semis, les maladies pour les semis, a augmenté la quantité de production et le volume de la production. Il ajoute que la plupart des agriculteurs, cette saison, ont subi des pertes estimées à 10 000 à 15 000 shekels. Là, c'est Nice. Par rapport à l'année précédente. L'année précédente, nous avons récolté environ 20 cajous de fraises par bonhomme dans la semaine, mais maintenant nous récoltons environ 6 cajous par semaine. Et ça, bien sûr, est dû à la période de froid qui a duré longtemps. Voilà, je finis avec images de la bande de Gaza au moment de la récolte des fraises. Et là, c'est un peu les maladies qui ont touché les feuilles des oliviers. Voilà, c'est le melon, la récolte de melon. Je ne sais pas si vous appelez ça melon. Moi, c'est un peu des espèces de concombres, je trouve. C'est une espèce, je ne sais pas si vous en avez ici.
Non, on n'en trouve pas ici.
Ah, d'accord. Je ne peux pas trop sucrer. Hein. Et voilà, merci. Si vous avez des questions pour connaître mieux la question, voilà.
Merci d'avoir.
Sur une des premières slides que vous aviez sur la concentration de chlorure, ça c'est après, c'est là. On voit qu'il y a une évolution assez drastique, un pic qui remonte à partir de 2016. À quoi est-ce que c'est dû?
Ah, la chlorure, c'est dû à l'intrusion de l'eau de mer.
Pourquoi à partir de 2016, l'augmentation, ça explose?